Introduction. Chaque société humaine doit justifier ses inégalités. Il faut leur trouver des raisons, faute de quoi c'est l'ensemble de l'édifice politique et social qui menace de s'effondrer. Chaque époque produit ainsi un ensemble de discours et d'idéologies contradictoires, visant à légitimer l'inégalité telle qu'elle existe ou devrait exister, et à décrire les règles économiques, sociales et politiques permettant de structurer l'ensemble. De cette confrontation, qui est à la fois intellectuelle, institutionnelle et politique, émergent généralement un ou plusieurs récits dominants sur lesquels s'appuient les régimes inégalitaires en place. Dans les sociétés contemporaines, il s'agit notamment du récit propriétariste, entrepreneurial et méritocratique. L'inégalité moderne est juste, car elle découle d'un processus librement choisi où chacun a les mêmes chances d'accéder au marché et à la propriété, et où chacun bénéficie spontanément des accumulations des plus riches, qui sont aussi les plus entreprenants, les plus méritants et les plus utiles. Cela nous situerait aux antipodes de l'inégalité des sociétés anciennes, qui reposaient sur des disparités statutaires rigides, arbitraires et souvent despotiques. Le problème est que ce grand récit propriétariste et méritocratique, qui a connu une première heure de gloire au XIXe siècle, après l'effondrement des sociétés d'ordre d'Ancien Régime, et une reformulation radicale et à visée mondiale depuis la fin du XXe siècle, à la suite de la chute du communisme soviétique et du triomphe de l'hypercapitalisme, apparaît de plus en plus fragile. Il conduit à des contradictions dont les formes sont certes très différentes en Europe et aux États-Unis, en Inde et au Brésil, en Chine et en Afrique du Sud, au Venezuela et au Moyen-Orient. Pour autant, ces différentes trajectoires, issues d'histoires spécifiques et en partie connectées, sont en ce début du XXIe siècle de plus en plus étroitement liées les unes aux autres. Seule une perspective transnationale peut permettre de mieux comprendre ces fragilités et d'envisager la reconstruction d'un récit alternatif. De fait, la montée des inégalités socio-économiques s'observe dans presque toutes les régions du monde depuis les années 1980-1990. Dans certains cas, elle a pris des proportions tellement massives qu'il devient de plus en plus difficile de les justifier au nom de l'intérêt général. Il existe en outre un peu partout un gouffre béant entre les proclamations méritocratiques officielles et les réalités auxquelles font face les classes défavorisées en termes d'accès à l'éducation et à la richesse. Le discours méritocratique et entrepreneurial apparaît bien souvent comme une façon commode pour les gagnants du système économique actuel de justifier n'importe quel niveau d'inégalité sans même avoir à les examiner et de stigmatiser les perdants pour leur manque de mérite, de vertu et de diligence. Cette culpabilisation des plus pauvres n'existait pas, ou tout du moins pas avec la même ampleur dans les régimes inégalitaires précédents, qui insistait davantage sur la complémentarité fonctionnelle entre les différents groupes sociaux. L'inégalité moderne se caractérise également par un ensemble de pratiques discriminatoires et d'inégalités statutaires et ethno-religieuses, dont la violence est mal décrite par le compte de faits méritocratiques, et qui nous rapproche des formes les plus brutales des inégalités anciennes, dont nous prétendons nous distinguer. On peut citer les discriminations auxquelles font face celles et ceux qui n'ont pas de domicile ou sont issus de certains quartiers et origines. On pense aussi aux migrants qui se noient. Devant ces contradictions, et faute d'un nouvel horizon universaliste et égalitaire crédible permettant de faire face aux défis inégalitaires, migratoires et climatiques à venir, il est à craindre que le repli identitaire et nationaliste fasse de plus en plus souvent figure de grands récits de substitution, comme cela a pu se voir en Europe au cours de la première moitié du XXe siècle, et comme cela se manifeste de nouveau en ce début de XXIe siècle dans différentes parties du monde. C'est la Première Guerre mondiale qui a lancé le mouvement de destruction puis de redéfinition de la très inégalitaire mondialisation commerciale et financière en cours à la Belle Époque, 1880-1914. Époque qui n'est apparue belle qu'en comparaison au déchaînement de violence qui a suivi, et qui en vérité l'était surtout pour les propriétaires, et tout particulièrement pour l'homme blanc propriétaire. Si l'on ne transforme pas profondément le système économique actuel pour le rendre moins inégalitaire, plus équitable et plus durable, aussi bien entre pays qu'à l'intérieur des pays, alors le populisme xénophobe et ses possibles succès électoraux à venir pourraient très vite amorcer le mouvement de destruction de la mondialisation hypercapitaliste et digitale des années 1990-2020. Pour conjurer ce risque, le savoir et l'histoire demeurent nos meilleurs atouts. Chaque société humaine a besoin de justifier ses inégalités, et ces justifications contiennent toujours leur part de vérité et d'exagération, d'imagination et de bassesse, d'idéalisme et d'égoïsme. Un régime inégalitaire, tel qu'il sera défini dans cette enquête, se caractérise par un ensemble de discours et de dispositifs institutionnels visant à justifier et à structurer les inégalités économiques, sociales et politiques d'une société donnée. Chaque régime a ses faiblesses et ne peut survivre qu'en se redéfinissant en permanence, souvent de façon conflictuelle et violente, mais également en s'appuyant sur des expériences et connaissances partagées. Ce livre a pour objet l'histoire et le devenir des régimes inégalitaires. En rassemblant des matériaux historiques portant sur des sociétés très éloignées les unes des autres et qui le plus souvent s'ignorent ou refusent de se comparer les unes aux autres, j'espère contribuer à une meilleure compréhension des transformations en cours dans une perspective globale et transnationale. De cette analyse historique émerge une conclusion importante. C'est le combat pour l'égalité et l'éducation qui a permis le développement économique et le progrès humain, et non pas la sacralisation de la propriété, de la stabilité et de l'inégalité. Le nouveau récit hyper-inégalitaire qui s'est imposé depuis les années 1980-1990 est en partie le produit de l'histoire et du désastre communiste. Mais il est également le fruit de l'ignorance et de la division des savoirs, et il a largement contribué à nourrir le fatalisme et les dérives identitaires actuelles. En reprenant le fil de l'histoire, dans une perspective pluridisciplinaire, il est possible d'aboutir à un récit plus équilibré et de dresser les contours d'un nouveau socialisme participatif pour le XXIe siècle, c'est-à-dire un nouvel horizon égalitaire à visée universelle, une nouvelle idéologie de l'égalité, de la propriété sociale, de l'éducation et du partage des savoirs et des pouvoirs, plus optimiste en la nature humaine et aussi plus précise et convaincante que les récits précédents, car mieux ancrée dans les leçons de l'histoire globale. Il appartient bien sûr à chacun d'en juger et de s'emparer de ces quelques leçons fragiles et provisoires pour les transformer et les mener plus loin. Avant de décrire l'organisation de ce livre et les différentes étapes de mon exposé historique, de l'étude des sociétés ternaires et esclavagistes anciennes à celle des sociétés postcoloniales et hypercapitalistes modernes, je vais commencer par exposer les principales sources sur lesquelles je m'appuie et la façon dont ce travail s'articule avec mon ouvrage précédent, Le Capital au XXIe siècle. Mais il me faut d'abord dire quelques mots sur la notion d'idéologie utilisée dans cette enquête. Qu'est-ce qu'une idéologie ? Je vais tenter, dans le cadre de ce livre, d'utiliser la notion d'idéologie d'une façon positive et constructive, c'est-à-dire comme un ensemble d'idées et de discours a priori plausibles visant à décrire comment devrait se structurer la société. L'idéologie sera envisagée dans ses dimensions à la fois sociales, économiques et politiques. Une idéologie est une tentative plus ou moins cohérente d'apporter des réponses à un ensemble de questions extrêmement vastes portant sur l'organisation souhaitable ou idéale de la société. Compte tenu de la complexité des questions posées, il va de soi qu'aucune idéologie ne pourra jamais emporter l'adhésion pleine et entière de tous. Le conflit et le désaccord idéologique sont inhérents à l'idéologie elle-même. Pourtant, chaque société n'a d'autre choix que de tenter de répondre à ces questions, souvent sur la base de sa propre expérience historique et parfois aussi en s'appuyant sur celle des autres. Dans une large mesure, chaque individu se sent également tenu d'avoir une opinion, aussi imprécise et insatisfaisante soit-elle, sur ces questions fondamentales et existentielles. Il s'agit notamment de la question du régime politique, c'est-à-dire de l'ensemble des règles décrivant les contours de la communauté et de son territoire, les mécanismes permettant de prendre des décisions collectives en son sein et les droits politiques de ses membres. Cela comprend les différentes formes de la participation politique, le rôle des citoyens et des étrangers, des présidents et des assemblées, des ministres et des rois, des partis et des élections, des empires et des colonies. Il s'agit également de la question du régime de propriété, c'est-à-dire de l'ensemble des règles décrivant les différentes formes de possession possibles, ainsi que les procédures légales et pratiques définissant et encadrant les relations de propriété entre les groupes sociaux concernés. Cela inclut le rôle de la propriété privée et publique, immobilière et financière, terrienne et minérale, esclavagiste et servile, intellectuelle et immatérielle, et la régulation des relations entre propriétaires et locataires, nobles et paysans, maîtres et esclaves, actionnaires et salariés. Chaque société, chaque régime inégalitaire, se caractérise par un ensemble de réponses plus ou moins cohérentes et durables, apportées à la question du régime politique et à celle du régime de propriété. Ces deux séries de réponses et de discours sont souvent étroitement liées l'une à l'autre, car dans une large mesure, elles découlent toutes deux d'une théorie de l'inégalité sociale et des disparités entre les différents groupes sociaux en présence, réels ou supposés, légitimes ou condamnables. Elles impliquent généralement divers autres dispositifs intellectuels et institutionnels, en particulier un régime éducatif, c'est-à-dire les règles et institutions organisant les transmissions spirituelles et cognitives, familles et églises, pères et mères, écoles et universités, et un régime fiscal, c'est-à-dire les dispositifs permettant d'apporter des ressources adéquates aux États et régions, communes et empires, ainsi qu'à des organisations sociales, religieuses et collectives de diverses natures. Pour autant, les réponses apportées à ces différentes dimensions de questionnement peuvent varier considérablement. On peut être en accord sur la question du régime politique et non sur celle du régime de propriété ou sur tel aspect des questions fiscales ou éducatives et pas sur d'autres. Le conflit idéologique est presque toujours multidimensionnel, même s'il arrive qu'un axe prenne une importance primordiale, au moins pour un temps, ce qui peut donner l'illusion d'un consensus majoritaire et peut parfois permettre de vastes mobilisations collectives et des transformations historiques de grande ampleur. La frontière et la propriété. Pour simplifier, on peut dire que chaque régime inégalitaire, chaque idéologie inégalitaire repose sur une théorie de la frontière et une théorie de la propriété. Il faut d'une part répondre à la question de la frontière. Il faut expliquer qui fait partie de la communauté humaine et politique à laquelle on se rattache et qui n'en fait pas partie, sur quel territoire et suivant quelles institutions elle doit se gouverner, et comment organiser ses relations avec les autres communautés au sein de la vaste communauté humaine universelle, qui, suivant les idéologies, peut être plus ou moins reconnue comme telle. Il s'agit, dans une large mesure, de la question du régime politique, mais elle implique aussi de répondre immédiatement à des questions portant sur l'inégalité sociale, en particulier celle séparant les citoyens des étrangers. Il faut d'autre part répondre à la question de la propriété. Peut-on posséder les autres individus, les terres agricoles, les immeubles, les entreprises, les ressources naturelles, les connaissances, les actifs financiers, la dette publique, et suivant quelle modalité pratique et quel système légal et juridictionnel doit-on organiser les rapports entre propriétaires et non-propriétaires et la perpétuation de ces relations? Cette question du régime de propriété, avec celle du régime éducatif et du régime fiscal, a un impact structurant sur les inégalités sociales et leur évolution. Dans la plupart des sociétés anciennes, la question du régime politique et celle du régime de propriété, autrement dit, la question du pouvoir sur les individus et celle du pouvoir sur les choses, c'est-à-dire les objets de détention qui sont parfois des personnes, dans le cas de l'esclavage, et qui, en tout état de cause, ont un impact déterminant sur les relations de pouvoir entre les personnes, sont liées de façon directe et immédiate. C'est le cas, évidemment, dans les sociétés esclavagistes, où les deux questions se confondent pour une large part. Certains individus en possèdent d'autres, dont ils seront à la fois les gouvernants et les propriétaires. Il en va de même, mais de façon plus subtile, dans les sociétés ternaires, ou trifonctionnelle, c'est-à-dire séparée en trois classes fonctionnelles, une classe cléricale et religieuse, une classe noble et guerrière, une classe roturière et laborieuse. Dans cette forme historique, observée dans la plupart des civilisations prémodernes, les deux classes dominantes sont inséparablement des classes dirigeantes dotées de pouvoirs régaliens, sécurité, justice, et des classes possédantes. Pendant des siècles, le landlord fut ainsi le seigneur des personnes vivant et travaillant sur la terre autant que le seigneur de la terre elle-même. Les sociétés de propriétaires, qui fleurissent notamment en Europe au XIXe siècle, tentent au contraire de séparer strictement la question du droit de propriété, réputé universel et ouvert à tous, et celle du pouvoir régalien, désormais monopole de l'État centralisé. Le régime politique et le régime de propriété n'en restent pas moins étroitement liés. D'une part, car les droits politiques furent longtemps réservés aux propriétaires, dans le cadre des régimes politiques dits censitaires, et d'autre part, et plus généralement, car de multiples règles constitutionnelles continuèrent, et continuent toujours, de limiter drastiquement toute possibilité pour une majorité politique de redéfinir le régime de propriété dans un cadre légal et apaisé. Nous verrons que la question du régime politique et celle du régime de propriété n'ont en réalité jamais cessé d'être inextricablement liées. Des sociétés ternaires et esclavagistes anciennes aux sociétés postcoloniales et hypercapitalistes modernes, en passant bien sûr par les sociétés de propriétaires et les sociétés communistes et social-démocrates, qui se développèrent en réaction aux crises inégalitaires et identitaires provoquées par les sociétés propriétaristes. C'est pourquoi je propose d'analyser ces transformations historiques en utilisant la notion de « régime inégalitaire », qui englobe celle de régime politique et de régime de propriété, ou encore de régime éducatif et de régime fiscal, et permet de mieux en percevoir la cohérence. Pour illustrer les liens structurants et persistants entre régime politique et régime de propriété, toujours présents dans le monde actuel, on peut également citer l'absence de tout mécanisme démocratique permettant à une majorité de citoyens de l'Union européenne, et a fortiori à une majorité de citoyens du monde, d'adopter le moindre impôt ou le moindre projet de redistribution et de développement en commun, compte tenu du droit de veto fiscal de chaque pays, aussi minoritaire sa population soit-elle, et quels que soient les bénéfices qu'elle tire par ailleurs de son intégration commerciale et financière à l'ensemble. Plus généralement, le fait central est que l'inégalité contemporaine est fortement et puissamment structurée par le système de frontières, de nationalités et de droits sociaux et politiques qui lui est associé. Ceci contribue d'ailleurs à engendrer en ce début de XXIe siècle des conflits idéologiques violemment multidimensionnels sur les questions inégalitaires, migratoires et identitaires, ce qui complique considérablement la constitution de coalitions majoritaires permettant de faire face à la montée des inégalités. Concrètement, les clivages ethno-religieux et nationaux empêchent souvent les classes populaires issues de différentes origines et de différents pays de se rassembler dans une même coalition politique, ce qui peut faire le jeu des plus riches et de la dérive inégalitaire, faute d'une idéologie et d'une plateforme programmatique suffisamment persuasive pour convaincre les groupes sociaux défavorisés que ce qui les unit est plus important que ce qui les divise. Ces questions seront examinées en temps utile. Je veux simplement insister ici sur le fait que le lien étroit entre régime politique et régime de propriété correspond à une réalité ancienne, structurelle et durable qui ne peut être correctement analysée qu'au terme d'une vaste remise en perspective historique et transnationale.